Histoire, actualité comme tous les vendredis dans la Fabrique de l'Histoire, actualité des publications d'histoire, actualité des colloques. Aujourd'hui, le 19e siècle des possibles et la peste en Afrique au Moyen-Âge. Nous avons débuté la semaine en évoquant la révolution de 1830 et la garde nationale sous Louis-Philippe avec Mathilde Larère. Eh bien, nous la terminerons avec la révolution de 1848 et sa force subversive. Michel Rio-Sarcé vient en effet de publier à la découverte d'un livre suggestif et enthousiasmant sur la puissance subversive des mouvements ouvriers et coopératifs au 19e siècle. Il s'intitule Le procès de la liberté, une histoire souterraine du 19e siècle en France, dans lequel on croise Georges Sand, Victor Hugo, Saint-Simon, Walter Benjamin, Karl Marx et bien d'autres. Et puis dans sa chronique mensuelle, La Fabrique de l'Autre, Catherine de Coppée nous expliquera, au lendemain de la visite du secrétaire d'État américain John Kerry au Japon, comment est né le mot Hibakusha, qui désigne les victimes des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki. Enfin, nous évoquerons un colloque qui se tient à l'université William & Mary à Williamsburg aux États-Unis aujourd'hui et demain, avec son organisateur Gérard Chouin, un colloque sur la présence de la peste dans l'Afrique subsaharienne au Moyen-Âge et à l'époque moderne. Bonjour Michel Rio-Sarcé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour votre livre, donc Le procès de la liberté, une histoire souterraine du 19e siècle en France. Un livre qui est visiblement, quand on le lit, nourri de nombreuses lectures, ça c'est évident, mais aussi d'un long travail patient de séminaires, de discussions. Dans la page des remerciements, vous remerciez énormément de monde, de ceux qui ont participé de près ou de loin à votre travail depuis maintenant quoi, une quinzaine ou une vingtaine d'années autour de ces questions et en particulier de la révolution de 1848, Michel Rio-Sarcé.
Oui, merci de me poser cette question. J'ai pas l'habitude de commencer comme ça, mais il est vrai que je remercie énormément de monde, mais ce monde-là était présent dans les séminaires que j'ai donnés sur les continuités, les discontinuités. Nous avons longuement débattu sur le sens des mots, sur ce que ça pouvait signifier pour l'historien, parce que ça n'est pas simple. Qu'est-ce que continuité en histoire? Comment penser une discontinuité? Et surtout, comment la saisir? Ça n'était pas vraiment accessible immédiatement. Et c'est au cours des débats, des échanges et surtout des questions que j'ai réussi à peu près penser la chose et pouvoir écrire ce livre qui m'a demandé effectivement énormément de travail.
Alors qu'est-ce que c'est cette histoire souterraine? Pourquoi une histoire souterraine du 19e siècle en France, en l'occurrence Michel Rio-Sarcé?
Parce que je me suis demandé, en étant toujours attentive à l'actualité, aux informations, aux mouvements présents, pour quelle raison la majorité de la population militante ou tout simplement insurgée ou manifestante avait souvent une référence au passé, c'est-à-dire qu'on essayait de réfléchir sur ce qui non pas pouvait advenir, mais ce qui manquait, comme si quelque chose n'avait pas été achevé, comme si les promesses d'hier n'avaient pas été tenues. Et je crois que notre actualité nous montre à quel point cette question est présente dans les esprits. Alors, je me suis dit, pour quelle raison l'histoire ne pourrait pas être pensée de cette manière-là, en travaillant avec, bien sûr, tous mes amis historiens et bien d'autres, travailler sur les différentes périodes pour interpeller, chercher à comprendre d'où venaient les différents slogans, que ce soit 1848, 1871 et bien d'autres, 1936 aussi, pour quelles raisons c'était quelque chose qui était réminiscent, revivifiant, c'était une actualité du passé.
Alors c'est tout à fait.
C'est la correspondance avec Benjamin, en fait.
Oui, et c'est tout à fait étonnant parce que en fait, on s'aperçoit quand on lit les livres d'histoire, comme ça nous arrive à la Fabrique de l'Histoire, qu'il y a une histoire des possibles qui vient de paraître, donc avec Quentin de Luermoz et Pierre Saint-Garavelou. C'est au Seuil récemment que la leçon inaugurale de Patrick Boucheron au Collège de France évoque les passés non advenus et que en fait, votre livre est effectivement fait de cela. C'est-à-dire, c'est cette idée de se poser la question de ce qui a été possible, qui n'est pas advenu, pourquoi ça n'est pas advenu, et de ce 19e siècle, non pas faire une sorte de fil continu qui vient jusqu'à nous, mais s'intéresser aux impasses, aux arrêts, à ce qui n'a pas surgi, mais n'a pas été réalisé d'une certaine façon.
Oui, pour moi, c'était très important. Alors, dans le livre, j'essaye... Le passé, pour moi, est définitivement passé. On ne peut pas refaire l'histoire. Et les événements non advenus n'ont de sens que parce qu'ils sont constamment revécus dans le présent. Et donc, je voulais comprendre comment le processus pouvait se penser. Et il m'a fallu à la fois travailler sur cette mémoire souterraine parce que les moments non advenus perdurent dans les mémoires et en même temps savoir comment ils avaient été occultés. C'est-à-dire, j'ai travaillé en trois temps à la fois sur cette pensée souterraine et par ailleurs sur la fabrique de l'histoire. Désolé.
Mais ça, vous l'avez souvent utilisé cette expression dans votre livre.
C'est la fabrique de l'histoire, mais pas la fabrique de l'histoire par les historiens, la fabrique de l'histoire par les contemporains. Mm-hmm. La façon dont immédiatement après l'événement, les contemporains se sentent obligés, et les autorités en particulier se sentent obligés de interpréter à leur manière pour essayer de étouffer en quelque sorte ces possibles qui, de toute façon, n'adviendront pas.
Alors ces possibles, ils ont été étouffés par différentes visions et des visions de l'histoire, expliquez-vous. Ils ont pu être étouffés par Karl Marx et un certain marxisme, vous le montrez de façon très remarquable. Ils ont été étouffés aussi par les classes dominantes, dites-vous, du 19e siècle, et en particulier sous la période donc de Napoléon III, par des Saint-Simoniens qui étaient pourtant de ceux qui avaient espéré des possibles, mais qui, d'une certaine façon, ont vu dans le règne de Napoléon III la possibilité d'appliquer certaines de leurs idées sur l'industrie. Et au bout du compte, eh bien, effectivement, ils ont ressurgi de temps en temps, sous la Commune, bien évidemment. Mais ces possibles, c'était quoi exactement pour vous, Michel Rio-Sarcé ?
Eh bien, c'était le titre de mon livre, ça correspond au titre de mon livre, La Liberté. J'ai découvert le sens de la liberté à travers les textes, à travers les pétitions, à travers les manifestes de 1830 et de 1848. Qu'est-ce que la liberté ?
Mais pas la liberté des libéraux ou non. Du libéralisme économique.
C'est la liberté individuelle qui ne peut être pensée que en collaboration avec la liberté collective. Et la liberté a été définie de manière un peu précise parce que c'était un grand intellectuel, Pierre Leroux. La liberté, c'est le pouvoir d'agir. Le pouvoir d'agir pleinement, souverainement, dans tous les domaines, politiquement, intellectuellement et moralement, puisque la question de la morale est très très importante à ce moment-là, mais une morale qui est de l'ordre de l'éthique, hein, aujourd'hui on dirait. Et cette définition, c'est pas simplement une définition, c'est que les individus, les ouvriers, les démunis en quelque sorte, essayent de la mettre en œuvre pratiquement immédiatement, dès l'instant où ils ont la possibilité de s'exprimer.
Oui, mais on leur demande de patienter. Et là, les forces révolutionnaires d'un côté, un certain type de forces révolutionnaires, mais comme le gouvernement ou les forces qui sont à la tête des régimes du 19e siècle leur disent « ça n'est pas pour tout de suite, patientez », c'est cela. Et c'est sur cette idée de patienter ou au contraire d'agir tout de suite que vous travaillez, Michel Rio-Sarcé.
Exactement, c'est-à-dire que ce qui m'a intéressé, je travaille beaucoup sur le saint-simonisme depuis très très longtemps. J'ai mes amis saint-simoniens avec qui d'ailleurs nous travaillons en ce moment sur un projet relativement important sur le saint-simonisme. Donc là encore, je ne travaille pas toute seule et je me suis rendu compte que la possibilité qu'avaient offert les Saint-Simoniens dans les années 30 sur la liberté était absolument ouverte et fabuleuse d'une certaine manière, eh bien cette possibilité était elle-même entravée par la force des choses, et c'est un des Saint-Simoniens les plus importants, Michel Chevalier, qui a essayé de montrer la pertinence de la philosophie du progrès, la pertinence de la force des choses, et en demandant, sous le Second Empire, aux ouvriers de patienter, en disant que cette association Capital-Travail permettrait d'aller dans une situation bien meilleure qu'elle ne l'était. Et cette philosophie du progrès, lorsqu'on la rapporte au tout début de son existence, d'une certaine manière, on s'aperçoit que bon nombre de personnes, plus ou moins lettrées, plus ou moins intervenant dans l'espace public, étaient relativement réticents sur la philosophie du progrès. Et le premier d'entre eux, bien sûr, Charles Fourier, expliquait que cette philosophie du progrès, ce progrès, n'avait de sens que s'il n'y avait absolument pas de possibilité de faire perdurer l'exploitation de l'homme par l'homme. Il n'y avait aucune compatibilité entre progrès et exploitation de l'homme par l'homme.
Alors vous traquez, mais comme d'autres historiens de cette période-là, vous traquez l'association comme étant, selon vous, une manière justement de se libérer. C'est alors c'est très subtil parce qu'effectivement on peut se dire l'association, surtout l'association ouvrière, l'association de pairs dans le métier, les métiers ouvriers, ça peut ressembler à la corporation et ça peut ressembler à l'Ancien Régime. Et donc vous tentez justement fil à fil, pourrait-on dire, de montrer que ça n'est pas la même chose et que entre-temps la Révolution française est advenue, la question de la liberté est advenue, et que cette question-là a forgé un autre type d'association ouvrière qui ne serait pas les corporations d'Ancien Régime, Michel Rivers.
Exactement. La rupture dans l'histoire, s'il y a une rupture en France en particulier, c'est 89, donc la Révolution. Et la Révolution a donné la possibilité à tous et à chacune de se penser libre, réellement ou potentiellement.
Comme individu.
Comme individu. Et ça, personne n'a jamais pu remettre ça en cause. Alors, cette liberté, il fallait savoir quelle forme elle allait prendre. Une liberté politique, une liberté sociale. Et les ouvriers, comme n'importe quelle personne, ont imaginé justement cette liberté en acte. Et ce qui se comprend parfaitement, c'est parfaitement rationnel. Et cette liberté en acte voulait dire avoir la maîtrise de son propre travail. Et il suffit de regarder de près la façon dont la grève et l'insurrection des Canuts s'est déroulée pour comprendre qu'est-ce que ça pouvait signifier. Beaucoup d'entre nous, que ce soit Thomas Boucher ou bien d'autres encore, ont essayé de travailler sur cette question de du sens de cette liberté à cette époque-là. Et donc, on a souvent dit que les Canuts, par exemple, étaient, Ludovic Frobert l'a montré, bien sûr, etc., étaient apolitique, mais c'est pas du tout. Ils voulaient être maîtres de leur propre travail. Mmh. Et cette liberté en acte, eh bien, le sens est donné précisément dans les mêmes années, en 1831.
Les Canuts, dont le journal s'intitulait L'écho de la fabrique.
Nous, dans la lampe, le matin, au clair, on dit que se rallume. Nous, tous, la salle, les recepteurs, appellent la bonne balle en cul. Des bras, des pieds, des mains, de tout le corps luttons sans cesse, sans abriser nos lendemains contre la froide de la vieillesse. Aimons-nous et quand nous pouvons nous unir pour boire à la ronde, que le canon se taise ou gronde. Buvons, buvons.
Du chant des ouvriers dans une interprétation bien connue, celle des disques Chants du Monde dans les années 60 et 70, donc avec ce texte donc de 1846, je crois, enfin juste avant la révolution de 48, où les ouvriers disent eh bien qu'il faut boire à l'indépendance du monde. Ça fait partie de ce corpus que vous avez brassé pour votre travail, Michel Herriot-Sarcey, Le procès de la liberté, une histoire souterraine du 19e siècle en France, aux éditions La Découverte.
Oui. Cette chanson m'a vraiment beaucoup fascinée, en particulier cette phrase « Buvons, buvons à l'indépendance du monde ». On imagine les manifestations en 48 chantant cette chanson. et parlant de l'indépendance du monde. Je trouvais ça absolument fascinant et j'ai essayé de comprendre ce que ça pouvait, signifier. C'est-à-dire que la liberté individuelle associée à la liberté collective ne pouvait que déboucher sur une liberté complète et totale. Et ça, il faut rapporter cette idée aux idées utopiques de la période. Que ce soit Saint-Simon, Owen ou Fourier, ils n'envisageaient absolument pas une transformation radicale de la société dans un quartier ou à l'échelle de la France. C'était le monde entier qui était pris en compte, le monde entier qui était concerné. Et ça donnait une puissance de pensée qui nous parle aujourd'hui. On ne comprend pas, on ne comprenait pas, disons, au XXe siècle, ce que pouvait signifier cette chanson, mais maintenant, on a peut-être une idée de ce que ça pouvait apporter.
Et cette vision mondiale, donc, elle explique à la fois les révolutions de 1848 qui donc enflamment l'Europe, mais aussi, et plus tard, la notion même d'association internationale des travailleurs.
Exactement.
Qui deviendra la première internationale.
L'Association internationale des travailleurs. Alors, vous avez dit tout à l'heure que cette idée de progrès ou cette idée de patience donnée aux ouvriers était aussi bien libérale que marxiste. Alors, marxiste, oui, parce que c'est une interprétation un peu singulière ou un peu particulière de l'idée de Marx, mais de la pensée de Marx. Mais j'ai bien montré dans le livre la différence qui pouvait exister quelquefois entre Marx lui-même, militant, intervenant dans l'actualité, présent, extrêmement attentif à ce qui se passait en 48, et par ailleurs le théoricien. C'est-à-dire que le théoricien, quelquefois, est emporté par cette force des choses, mais en même temps, c'est toujours balisé par une remarque critique.
Oui, alors, mais vous dites par exemple que Karl Marx ne mesure pas l'importance de l'expérience émancipatrice quand il réfléchit à 1848 des travailleurs insurgés, et qu'il n'entend pas le mot « fraternité » sur lequel vous insistez dans un chapitre, sous son sens communiste, mais comme une collaboration de classe. Alors vous dites, à une époque, le communisme fraternel, et c'est juste dans les 10 années qui précèdent 1848, ça a un sens très particulier. La fraternité est chargée d'un sens très particulier, Michel Rieu-Sarcey.
C'est-à-dire que ce que dit Marx sur la fraternité, c'est le sens commun donné. C'est l'interprétation, de l'idéologie dominante en général. Et il a raison de dire sa critique, de donner sa critique à l'égard de la fraternité pensée de cette manière-là, mais dans un temps relativement court. J'ai découvert ça en écrivant le livre et en travaillant sur le livre. Le mot fraternité a un sens complètement différent. C'est un sens, je dirais presque très actuel, de partage, de commun, de communauté, mais au sens noble du terme. Et ça signifie presque l'équivalent du communisme, puisque le journal La Fraternité avait ce sens-là. Mmh. Et le journal La Fraternité, c'était le journal des communistes, qui n'avait pas grand-chose à voir avec le communisme de Cabet. Là encore, les débats étaient très conflictuels à cette époque-là.
Alors, ce qui est très intéressant aussi, c'est que vous nous rappelez que beaucoup de ces penseurs, ils ont en tête, ces penseurs et ces acteurs de 1848, ils ont en tête la révolution de 1830, la révolte des Canuts, vous nous l'avez dit, mais évidemment 1789, certains ont en tête 92, d'autres ont en tête 93, 94, et que tout cela évidemment participe à leur univers mental, à la façon dont ils se pensent dans le monde en action du milieu du 19e siècle. Et vous insistez aussi beaucoup sur les sources chrétiennes, dites-vous, qui est d'un christianisme qui ne serait pas un christianisme récent, mais un christianisme d'une certaine façon qu'on pourrait presque appeler fondamentaliste, qui reviendrait aux origines de l'évangile et qui serait là aussi au cœur de la pensée de beaucoup de ceux qui vont penser cette question de l'égalité, de la fraternité au milieu du 19e siècle, Michel Rieu-Sarcey.
Oui, cette question du christianisme est très importante. Pas le christianisme, je dirais, pas du tout fondamentaliste, à mon avis.
Je dis fondamentaliste, c'est-à-dire, quand on dit les fondamentalistes, ce sont ceux qui reviennent supposément à l'origine de la religion.
Mais compte tenu du sens actuel,
oui, voilà, c'est ça.
Et là, s'il y a une contradiction dans les termes, c'est que je le montre avec un très beau texte de Pauline Roland, en 48, qui essaye de comprendre où elle peut accrocher en quelque sorte le mouvement dans lequel la totalité des ouvriers semble présent, ce mouvement actuel, comment elle peut le raccrocher en histoire. Il n'y a pas d'histoire à sa disposition. C'est-à-dire que toutes les histoires qui viennent de paraître, c'est la nouvelle histoire, c'est notre héritage direct. il n'y a pas la classe ouvrière, puisque les historiens de cette époque-là, que ce soit Augustin Thierry et autres, Guizot, ils ne veulent absolument pas séparer le tiers-État. C'est-à-dire qu'il faut qu'à l'intérieur du tiers-État, la bourgeoisie commande, en quelque sorte. Et Enfantin le répète très largement en 48 dans son journal Le Crédit. Et cette histoire-là, il faut pouvoir l'ancrer quelque part. Alors, on va le chercher dans presque les droits naturels et un christianisme anhistorique d'une certaine manière.
Un messianisme populaire.
Un messianisme populaire où l'égalité des individus entre eux, le droit naturel, ne peut absolument pas être contesté.
C'est Constantin Pécœur qui dit que c'est le christianisme primitif, c'est la plus haute expression de la science sociale et du communisme.
Exactement, parce que c'est fondamental, c'est le fondement de l'humanité. Chacun naît dans une société et cette égalité, elle est liée au droit naturel de toute humanité. Et donc, c'est une refondation de l'humanité à égalité, à la fois de connaissances et à l'égalité de situation dans l'actualité.
Alors, vous avez utilisé tout à l'heure, cité un personnage, Walter Benjamin, qui a évidemment beaucoup pensé le 19e siècle, et vous avez dit qu'il avait fallu travailler longuement sur Walter Benjamin pour qu'il vous aide justement à percevoir des choses qu'en tant qu'historienne, vous n'auriez peut-être pas perçues si vous n'étiez pas passé par son œuvre. C'est quoi le rôle, justement, dans ce travail, le procès de la liberté, Michel Rieux-Sarcey, de Walter Benjamin pour une historienne comme vous ?
Pour moi, la lecture de Benjamin a été absolument fondamentale. Non pas comme référence théorique, non pas comme un penseur à l'écart de l'histoire, mais comme un véritable penseur de l'histoire, à la manière, d'une certaine façon, de Foucault, de Michel Foucault, qui se disait penseur de l'histoire. Et ça a été une véritable rencontre, une correspondance. Lorsque je lisais les fragments dans le Livre des Passages, ou une réflexion beaucoup plus théorique dans le Drame baroque, ou bien d'autres textes de Benjamin, très accessibles à l'heure actuelle en langue française, eh bien, je découvrais la pertinence de sa pensée. Et cette pertinence, c'était cette réflexion fondamentale qui consiste à imaginer l'homme, en quelque sorte, qui est en train de se libérer, comme un éveil, en éveil permanent, en guetteur qui essaye de comprendre ce qui se passe, et en étant dans cette situation extrêmement tendue, essaye de récupérer les moments, l'actualité du passé, par-delà toutes les continuités. Et cette idée-là me semble absolument fondamentale, et c'est ce que j'ai essayé de mettre en œuvre, non pas comme tentative d'appliquer une théorie, mais au contraire dans cette correspondance extraordinaire où je me suis rendu compte que chaque insurrection, chaque moment, était fondée sur l'idée d'un manque, parce que les promesses du passé n'étaient pas achevées. Et lorsque Benjamin essaye de penser ce qu'il appelle l'image dialectique, il le pense avec des réflexions très, très, très influencé par sa traduction de Proust, sa traduction de Baudelaire, et c'est une forme de remémoration, c'est-à-dire que une remémoration qui n'est pas obligatoirement consciente, qui est souvent d'ailleurs inconsciente, où on s'aperçoit que les idées du passé, l'esprit du passé, perdurent au point qu'à un moment, l'actualité permet de réveiller des idées éteintes, des pensées totalement oubliées, enfouies, voire des idées forecloses.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que vous faites un tour de grands auteurs, d'auteurs moins connus. J'ai cité Constantin Pécœur, Pierre Leroux est connu, bien évidemment, mais que vous brassez une masse de documentation incroyable, que vous allez chercher, évidemment, aussi bien Georges Sand que Daniel Stern, par exemple, des femmes qui étaient dans la fabrique de l'histoire, elles aussi, et que vous vous attaquez à un monument, à savoir Victor Hugo. Moi, ça m'a fait un peu bizarre, parce que pour moi, évidemment, Les Misérables, c'est un texte qui résume peut-être un certain esprit, en tout cas vu d'aujourd'hui, de ce qu'a pu être la Révolution au XIXe siècle. Et en fait, vous vous attaquez à ce monument en disant, ben, en fait, Victor Hugo n'est pas celui qu'on croit. Et quand il fait Les Misérables, c'est quelqu'un qui n'est pas, qui est marqué, puisqu'il est en train de l'écrire à ce moment-là, par l'insurrection de 1848. Il est hostile à cette insurrection. Il ne faut pas oublier d'où il vient. Vous marquez aussi des continuités, selon vous, dans la pensée de Victor Hugo, avec certaines pensées corporatistes de l'Ancien Régime. Et donc, Les Misérables ne serait pas le monument que l'on croit de la libération populaire au XIXe siècle. Là, c'est quand même un gros morceau.
Alors, je me suis sentie obligée, en quelque sorte, de relire Les Misérables. Alors, je les ai relus vraiment, c'est-à-dire, ça m'a pris énormément de temps de relire Les Misérables dans sa totalité. Je tiens à préciser que c'est une grande œuvre. Ah bah. C'est quelque chose d'absolument remarquable et j'avoue que j'ai pris à nouveau un grand plaisir à lire Les Misérables. Et j'ai lu cela après avoir lu La Grève de Samarais de Pierre Leroux, et on s'aperçoit que la tension est très grande entre les deux puisque c'est la même période et ils sont tous les deux en exil et chacun essaye de, disons, de poser sa personnalité. Leroux est, bien sûr, se sent quelque peu oppressé par la grande puissance de pensée des Misérables. Mais moi, ce qui m'a intéressé le plus, c'est qu'en relisant Les Misérables, je me suis rendu compte que Victor Hugo inventait la première moitié du 19e siècle, réinventait la première moitié du 19e siècle, et il n'y avait plus d'hommes libres en instance d'insurrection, en sujet de leur propre histoire, et il n'y avait que des individus qui étaient assujettis, non seulement à la tutelle, bien sûr, des dominants, mais qui étaient assujettis à l'autre, au grand autre, dirait-on, puisque ce qui domine Les Misérables, c'est quand même Dieu qui est à la puissance tutélaire absolue. Et au fur et à mesure de la lecture, je me suis rendu compte que la lecture de Victor Hugo était une lecture extrêmement partiale, extrêmement critique à l'égard des insurrections, à l'égard y compris de la révolution proprement dite.
Avec très peu d'ouvriers, dites-vous.
Avec pratiquement aucun ouvrier et du même coup, aucune référence à la révolution de 1830, aucune référence à la révolution de 1848, sauf par fragment, et quel fragment, la barricade de Saint-Antoine qui est particulièrement maltraitée, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est la poubelle de l'histoire, et en même temps... relisez-la et vous verrez que même sa fascination pour la révolution, elle est entachée de moments critiques qui sont absolument déterminants.
Mais néanmoins, sur À Nuit Debout, hier, je crois, François Ruffin citait Étonné de la catastrophe par le peu de peur qu'elle nous fait. Cette phrase, justement, qui évoque justement cette barricade de 1830 et qui évoque cette œuvre des Misérables comme étant encore active aujourd'hui. Et là, quand vous dites on fait des mouvements aujourd'hui ou à une époque en se faisant référence à des œuvres du passé, à des moments du passé, c'est bien le cas.
C'est ça, la remémoration, d'une certaine manière. Si j'avais été là, peut-être que je lui aurais expliqué que c'était pas tout à fait exact. Mais fondamentalement, c'est une phrase. Donc, on va se remémorer, y compris, par exemple, moi je l'ai vu dans un journal, Gavroche. Gavroche, qui est le seul homme libre, si je puis dire, seulement, il meurt sur une barricade et c'est un enfant. Donc, cette remémoration, c'est qu'on prend ce qui parle aujourd'hui, cette actualité du passé, que ce soit Victor Hugo, Leroux ou bien d'autres encore, c'est quelque chose qui va nous permettre de penser le passé à travers notre actualité.
Alors, on n'a pas eu le temps de dire que ce livre n'est pas que sur 1848, mais qu'il continue tout au long du 19e siècle et qu'il se nourrit aussi de toutes les expériences du Second Empire et de la République aussi, avec en passant par la Commune, bien évidemment. Juste brièvement, je vais vous demander très brièvement, comment cette idée de souveraineté populaire, qui est quand même au cœur de ce livre, de l'association des ouvriers par eux-mêmes, etc., comment finit-elle par disparaître du champ politique à la fin du 19e siècle ?
C'est-à-dire qu'elle ne disparaît pas vraiment du champ politique à la fin du 19e siècle. Cette souveraineté populaire, je pourrais résumer ça dans une phrase, les hommes, les ouvriers, les femmes souhaitaient au 19e siècle, dans la première moitié du 19e siècle, accéder à la liberté, accéder au pouvoir d'agir, et la Troisième République a répondu par la protection. Ça n'est pas l'affranchissement ni l'émancipation, mais la protection.
Merci Michel Rio-Sarcet. Donc on a tout intérêt à vous lire dans Le procès de la liberté, une histoire souterraine du 19e siècle en France, dont on a donné peut-être une petite idée, mais qui est bien plus riche que ce qu'on a pu dire encore avec vous. C'est aux éditions La Découverte.
France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin.
9h36 dans cette émission du vendredi, Histoire Actualité. On a parlé de l'actualité des parutions et on parle avec vous, Catherine de Copé, bonjour.
Bonjour.
De l'actualité d'un mot, c'est l'heure de vous retrouver pour votre chronique mensuelle, La Fabrique de l'Autre. Et comme toujours, vous partez d'un mot qui désigne les autres ou un groupe de gens pour explorer l'histoire. Et il y a c'est une dizaine de jours, le secrétaire d'État américain John Kerry était à Hiroshima, au Japon, à l'occasion d'un sommet du G7, et le chef de la diplomatie américaine, qui a peut-être laissé entendre que peut-être Barack Obama pourrait venir bientôt, s'est rendu le 11 avril au Mémorial pour la paix en hommage aux victimes de la bombe atomique. Et John Kerry est le premier dignitaire américain de cette stature à faire ce geste depuis 1945. Et cela vous a donné envie de nous parler d'un mot, Ibakusha.
Alors, il est toujours intéressant de constater à quel point l'histoire fabrique des mots. Et Ibakusha en est un exemple frappant. Ibakusha, c'est un mot japonais, entré dans le langage courant et qui veut dire littéralement « personne ayant subi le bombardement ». Le terme a émergé après le largage des deux bombes atomiques par l'armée américaine sur les villes d'Hiroshima puis de Nagasaki en août 1945. Alors, il désigne de fait les victimes qui ont survécu, alors que son sens littéral pourrait renvoyer vers toutes les personnes touchées, vivantes ou mortes. Difficile de savoir quand précisément le mot a émergé et s'il a été forgé par les victimes elles-mêmes. Par contre, l'émergence des Ibakusha comme groupe à part entière est une histoire qui se raconte. Alors repartons des faits. On estime à 350 000 le nombre de victimes des deux bombardements atomiques, dont 140 000 sont mortes sur le coup ou dans les semaines qui ont suivi. Très vite, les survivants vont se retrouver dans une communauté de sort vis-à-vis du Japon entier qu'on pourrait résumer par deux mots, isolement et silence. Les premières années de l'après-guerre au Japon, en effet, sont marquées par la censure qui entoure tous les sujets liés de près ou de loin à la bombe atomique. Les États-Unis, puissance occupante de l'archipel, instaurent en effet un code de la presse assez strict qui interdit la diffusion d'informations et de commentaires sur le sujet. Et dans ses notes sur Hiroshima, l'écrivain japonais Kenzaburo, extérieur à la catastrophe, fait remarquer que dans le principal journal d'Hiroshima, il n'existait pas de caractère d'imprimerie pour les mots radioactivité ou bombardement atomique, et ce pendant les 10 années qui ont suivi le drame. Alors la pression sur les témoins et les écrivains était forte, et d'autant plus que le gouvernement japonais avait appelé très peu de temps après les bombardements au repentir de 100 millions d'individus. Autrement dit, tous les Japonais, et pas seulement les officiels et les militaires, devaient expier leurs fautes, et tout anti-américanisme était proscrit, donc difficile dans ces conditions de faire entendre sa voix.
Alors le silence et l'isolement des Ibakusha sont aussi liés, comme l'a montré par exemple une historienne comme Maya Todeschini, à l'absence d'une prise en charge médicale dans les années qui ont suivi les deux bombardements, Catherine.
Oui, alors au début de l'occupation américaine, les hôpitaux militaires ont fermé. L'armée américaine et la Croix-Rouge ont distribué quelques médicaments et quelques médecins et infirmières japonais sont intervenus. Mais les victimes, de fait, ont été laissées complètement sans soins. Et cet abandon, doublé de la censure dont je viens de parler, s'explique principalement par la volonté américaine de maintenir le secret sur les effets de la bombe atomique. Présentée comme une action militaire qui aurait permis de mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale, les bombardements sont aussi et surtout une expérience scientifique censée asseoir la supériorité américaine sur l'URSS et que justifie les millions de dollars investis dans la mise au point des bombes. L'aspect scientifique est le seul retenu par les Américains vis-à-vis des victimes. En 1946, est créé sur place au Japon un laboratoire militaire pour examiner les survivants et autopsier les cadavres. L'objectif est de collecter des données sur les effets de la bombe, mais en aucun cas de prescrire un traitement médical aux survivants. Et donc laissés à eux-mêmes face à l'ignorance des effets de la bombe sur la santé et dans l'angoisse des pathologies à apparaître, les Ibakusha vont faire l'objet d'une réelle discrimination par le reste de la population. Refus de mariage, rejet d'embauche, rejet des assureurs seront fréquents par crainte d'une contagion ou d'une transmission aux descendants des éventuelles pathologies.
Alors à partir de quand justement les Ibakusha vont être reconnus comme victimes, Catherine Lecoq?
Alors ça peut paraître étonnant, mais il faudra attendre 1957 pour que les pouvoirs publics proposent un système d'allocation et de soins gratuits. Alors pourquoi à ce moment-là? C'est un événement qui va précipiter le réveil d'une partie de l'opinion publique japonaise et la prise de parole des Ibakusha. C'est un bateau de pêche japonais qui est victime en 1954 des retombées radioactives d'un essai nucléaire américain sur les îles Marshall. Et la mobilisation en faveur des irradiés de ce bateau conduira d'ailleurs les États-Unis à verser 2 millions de dollars en leur faveur. Et à partir de là, les Ibakusha commencent à prendre la parole et à se constituer en association pour témoigner et se mobiliser en faveur du pacifisme. Le système de soins qui avait été instauré donc en 1957 n'a été qu'un premier pas dans une lente reconnaissance de cette souffrance et une reconnaissance jalonnée de failles. Par exemple, les dégâts psychologiques de la catastrophe n'ont pas du tout été pris en compte et une partie des victimes a été exclue du système d'allocation, en particulier les travailleurs coréens qui étaient présents sur les zones du bombardement. Et il faudra attendre 1965 pour que commence un recensement précis par le ministère de la Santé des victimes et 1994 pour que l'État reconnaisse un devoir d'aide aux victimes et verse à tous une indemnité spécifique. Du coup, la parole des Ibakusha, on le comprend, a toujours été difficile à porter, en raison de l'horreur stupéfiante des bombardements qui est difficile à mettre en mots, mais aussi à cause de la quasi-impossibilité pour ceux qui ont essayé de se faire entendre. Il y a eu des ouvrages de littérature de la bombe, mais qui ont été souvent accusés de facilité, une façon de récuser en fait la force des témoignages. Alors en 2002, la municipalité d'Hiroshima a lancé un programme permettant à des personnes liées à des Ibakusha de recueillir et transmettre leurs témoignages. On les appelle les successeurs. C'est un joli mot, je trouve. Ouais. Voilà, il y en aurait un peu plus d'une centaine. Et ce programme est à prendre comme le signe d'une très lente réhabilitation liée au devoir de mémoire.
Merci beaucoup, Catherine de Copé, de nous avoir rappelé ce qu'étaient ces Ibakusha dans votre chronique La Fabrique de l'Autre, qu'on retrouvera le mois prochain dans La Fabrique de l'Histoire. Gérard Choin, bonjour. Merci d'être avec nous pour évoquer un colloque qui se déroulera donc chez vous dans quelques heures, puisqu'il est 3 heures du matin, heure des États-Unis. Vous enseignez à l'université William & Mary et vous organisez avec d'autres un grand colloque international dont le thème m'a fait m'intéresser à cette thématique, à savoir que c'est un colloque qui traite de la peste et de la peste en Afrique subsaharienne, mais à l'époque médiévale ou aux époques plus récentes, jusqu'à l'époque contemporaine. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'organiser un colloque de ce type-là? Est-ce qu'il y a une question liée justement à la présence ou non de la peste sur le territoire subsaharien dans les temps les plus anciens?
Oui, je pense qu'il y a, en effet beaucoup de questions qui se posent. Et ce qui a attiré mon attention sur cette question, c'est essentiellement le fait que lorsque vous regardez la documentation telle qu'elle existe aujourd'hui sur la peste, l'essentiel des cartes, l'essentiel de l'information est centré sur l'Europe. Or, on parle de la peste comme étant une pandémie. Une pandémie, ça veut dire une maladie qui a touché l'ensemble du monde connu, au moins. Et donc, la question se pose de savoir si cette maladie a eu des effets similaires aux effets qu'elle a eu en Europe, sur d'autres continents, et notamment en Afrique. Alors en fait, la question s'est posée il y a quelques années déjà pour moi, lorsque je travaillais au Ghana, je faisais des fouilles dans le sud du Ghana, et je me suis rendu compte qu'il y avait tout un ensemble de sites d'habitat qui a été abandonné autour du XIVe siècle, d'après ce que me disaient les datations radiocarbone. Mmh. Or, c'était des sites d'habitat qui avaient été habités pendant à peu près 500 ans. Donc, c'était des villes bien inscrites dans le paysage. Et c'était également des villes caractérisées par des défenses assez monumentales. Et donc, je me suis posé la question de savoir pourquoi cet ensemble de villes, au niveau régional, semble avoir été abandonné au XIVe siècle. Mmh. Et c'est ce qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à cette question et à réfléchir à la manière dont on pourrait essayer de résoudre ce problème, parce que il est vrai que la peste est totalement invisible dans la littérature, mais également dans les sources. Voilà. Donc c'est un sujet intéressant, il me semble, parce que lorsqu'on sait l'impact que la peste a pu avoir en Europe ou dans le monde méditerranéen à cette époque, on peut imaginer qu'on a manqué finalement une page d'histoire extrêmement importante en Afrique. Et cette page d'histoire, si on arrivait à la tourner, je pense que ça pourrait nous mener à comprendre l'histoire de l'Afrique mais aux époques médiévales et modernes de manière relativement différente.
Alors c'est intéressant parce que vous rassemblez pour cette recherche beaucoup de chercheurs qui viennent des États-Unis mais aussi d'Europe et qui travaillent sur ces questions de l'Afrique subsaharienne à des périodes plus anciennes et en particulier à la toute fin de ce qu'on appelle chez nous le Moyen-Âge. Et cet ensemble de chercheurs que vous rassemblez pendant deux jours dans votre université va réfléchir ensemble justement à cette possibilité-là. Qu'est-ce que ça changerait de savoir qu'effectivement, alors qu'on ne le savait pas auparavant, eh bien la peste a pu décimer des populations dans l'Ouest africain, au Nigeria, dans la culture Ifé ou dans d'autres cultures, alors qu'on ne le pensait pas auparavant, Gérard Choin?
Écoutez, je pense que ça changerait de manière assez radicale l'historiographie telle qu'elle existe aujourd'hui. Ça changerait notre compréhension, par exemple, des grands empires. Ça changerait également sans doute beaucoup de choses concernant Ifé. Il se trouve que je mène des fouilles également à Ile-Ife avec un financement du ministère des Affaires étrangères. Et ce que je vois à Ife, c'est exactement ça, c'est-à-dire une période d'abandon qui vient après cette période de florescence d'Ife du 12e, 13e siècle et qui semble correspondre assez bien avec un hiatus que l'on trouve ailleurs pour cette période en Afrique et notamment donc une sorte de bouleversement des sites urbains et une recomposition de la carte des sites d'habitat à l'époque. Donc je pense que si véritablement nous sommes en mesure de démontrer que la peste a touché l'Afrique à cette période, je pense que c'est le début d'une petite révolution dans l'historiographie de l'Afrique, surtout pour les périodes médiévales et modernes. Il y a une question notamment qui est particulièrement importante, c'est comment est-ce que cette maladie et comment est-ce que le choc démographique qu'elle aurait pu causer en Afrique, comment est-ce que cette crise, comment est-ce que cette crise pourrait être mise en relation avec la manière dont l'Afrique entre dans le commerce atlantique à partir de la fin du 15e siècle. Voilà, ça, ce serait une question aussi très intéressante. Donc, je pense que, alors, le problème, évidemment, c'est de démontrer que la peste a véritablement engendré une crise démographique en Afrique. Et c'est la raison pour laquelle, donc, je réunis un certain nombre de collègues et que ces collègues sont avec moi. Alors, vous appelez ça un colloque. Moi, j'appelle ça plutôt un atelier. C'est vraiment un deux journées pendant lesquelles on va essayer de mettre nos idées en commun. Alors j'ai des collègues qui sont des spécialistes de l'ADN ancien, j'ai des collègues qui sont des linguistes, j'ai des collègues qui sont des archéologues, d'autres qui sont des historiens. Et donc nous essayons, si vous voulez, de manière assez éclectique, de passer en revue un grand nombre de sources, de méthodes possibles pour toucher la peste. Et donc nous espérons pouvoir démontrer ou au moins renforcer, établir un faisceau de preuves autour de cette question de la peste.
Alors néanmoins, j'imagine que quand on organise un colloque de cette ampleur ou une réunion de cette ampleur de chercheurs venant d'un peu partout, on a déjà un peu assuré ses bases. En l'occurrence, vous ne partez pas sans rien. Gérard Choin, vous connaissez aussi ce que vont vous dire tous ceux qui participent à ces journées d'études que vous organisez aux États-Unis. Alors il y a peut-être déjà quelque chose qui vous laisse entendre que vous allez pouvoir rassurer votre hypothèse, justement, qui n'est pas votre seule hypothèse à vous, mais l'hypothèse de plusieurs chercheurs. justement sur cette possibilité qu'une très grande épidémie de type peste ait pu mettre à bas certaines cultures qui étaient florissantes jusque-là.
Bon, écoutez, on a en effet un certain... Enfin, je pense qu'il y a un faisceau, comme je disais, de preuves qui se dessinent. Mais il faut dire que c'est un projet assez courageux, et notamment c'est assez courageux de la part de l'ANR de l'avoir financé, parce que c'est vrai qu'on est parti d'une question pour laquelle il y avait relativement peu d'éléments. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des éléments qui commencent à se mettre en place, notamment des éléments en termes de la carte archéologique de l'Afrique, et comme je vous disais, de grands changements dans la géographie urbaine, notamment autour du XIVe siècle. Mmh. On a également des sources écrites qui mentionnent des épidémies et des crises importantes. Pour la période médiévale, disons, surtout à partir du XVe siècle, parce que avant le XVe siècle, on n'a pas le nombre de sources et la qualité de sources suffisante pour véritablement explorer cette thématique. Mais à partir du XVe siècle, on a des éléments. Et donc, on a ma collègue Marie-Laure Dera, par exemple, qui travaille sur l'Éthiopie, qui va nous présenter les résultats de ses travaux sur des manuscrits éthiopiens du 14-15e siècle. Et là, on voit se dessiner des éléments véritablement intéressants.
Alors,
De même, dans les manuscrits du 16e, 17e siècle dans le Soudan, on voit également des épidémies apparaître qui pourraient être la peste. Le problème, c'est véritablement de le prouver. Et pour le prouver, je pense que la seule manière, c'est de travailler à partir de l'ADN.
Oui, alors justement, c'est très intéressant parce que on sait que aujourd'hui, en particulier aux États-Unis, Gérard Choin, il y a beaucoup de gens qui réfléchissent à cette possibilité de travailler à partir de la génétique, à partir de l'ADN, pour par exemple renverser certaines hypothèses précédentes sur les grandes migrations, sur des migrations anciennes, etc., en faisant des sortes de cartographies ADN des déplacements de population à partir de l'ADN de chacun. Est-ce que ça rentre aussi dans une problématique comme la vôtre? C'est-à-dire, est-ce que la génétique, science dure par excellence, pourrait-on dire, est-ce que cette génétique vient au secours des sciences humaines ou est-ce qu'elle ne peut être qu'une annexe, pourrait dire une science annexe qui aidera les historiens à mieux comprendre des phénomènes qu'ils ne comprenaient pas auparavant, Gérard Choin?
Oui, absolument. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en Amérique du Nord, on a plusieurs grands labos donc qui s'intéressent à la génétique humaine et à ce genre de questions. Et ces grands labos, en général, font partie de départements d'anthropologie. Et donc, il y a, d'une certaine manière, mes collègues qui vont venir à ce colloque, l'un de Macassar au Canada et l'autre de l'Université de Californie à Santa Cruz, sont des collègues qui sont des anthropologues, même si en vérité, ce sont aussi des biologistes spécialisés dans l'ADN ancien. Et donc, on peut travailler ensemble. C'est pas simple, mais de plus en plus, des historiens, des anthropologues, des biologistes travaillent ensemble sur ce genre de questions. Et la véritable difficulté pour nous, c'est de trouver des échantillons dans lesquels on puisse encore trouver de l'ADN. Et c'est pas simple, en Afrique notamment, les premiers échantillons qu'on a traités avant ce colloque n'ont pas permis, par exemple, de trouver de l'ADN ancien. Donc, on part sur un constat assez assez négatif, mais on essaye, on espère tisser un réseau, accumuler davantage d'échantillons provenant d'un grand nombre de sites archéologiques et d'échantillons de temps, hein, parce que c'est le matériel qu'on utilise.
Les dents, oui,
c'est ça. Donc on essaie de contacter des collègues qui ont travaillé sur des sites archéologiques un peu partout en Afrique, et on essaye de tester notamment du matériel qui viendrait de tombes qui nous paraissent être un peu suspectes, avec par exemple des tombes multiples, par exemple. Voilà. Donc c'est un travail en cours. C'est un travail de longue haleine. Alors on a un projet de 4 ans. Hein, donc là on ne fait que commencer ce projet. Et on espère pouvoir accumuler un certain nombre d'éléments qui puissent nous permettre
d'étayer votre hypothèse.
Et puis de secouer un petit peu l'historiographie médiévale de l'Afrique qui est un peu ankylosée.
Merci en tous les cas, et on vous souhaite justement que vos hypothèses soient confirmées par ces 2 journées d'études qui commencent dans quelques heures pour vous, donc aux États-Unis, à l'université William & Mary à Williamsburg. Merci beaucoup Gérard Choin d'avoir répondu à nos questions, et donc on espère effectivement qu'on aura d'ici quelques temps connaissance des conclusions de ces journées, de ces discussions. Vous espérez publier quelque chose d'ici quelques temps ?
Merci à vous. Oui, bien sûr, on va vous tenir au courant, et on espère des publications à venir, dans les 2 ans à venir.
Merci beaucoup Gérard Choin, bon colloque, bonne journée.
Merci à vous.
Je vous rappelle que dans cette émission d'histoire et d'actualité, nous avons parlé du livre de Michel Rio-Sarcey, Le procès de la liberté, paru aux éditions La Découverte, des Ibakusha. Donc, c'était la chronique de Catherine Decopé, donc de ce colloque sur la peste à l'époque médiévale et moderne en Afrique subsaharienne. Cette émission était préparée comme d'habitude par Marie-Vonne Bolivier et Aurélie Marcet. Dalia était avec nous à la technique et Françoise Camard à la réalisation. On se retrouve la semaine prochaine pour une histoire de la consommation dans la fabrique de l'histoire, et nous commencerons la semaine avec un entretien avec l'historienne Danielle Volman autour de son livre sur les locataires et les propriétaires et leurs relations tendues à l'époque contemporaine.